Radio Kapi. Oh, Kapi.
La République démocratique du Congo commémore ce 4 janvier, le 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Dans ce journal, nous allons rappeler les faits de ce 4 janvier 1959 qui ont donné le goût des revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance. En entente d'une escorte des militaires, plus de 300 véhicules de transport à destination de l'Ituri et de la Tchopo bloqués à Oicha dans le Nord Kivu. Les transporteurs appellent les autorités militaires du Nord Kivu à débloquer cette situation. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Kasongo Mulongo Imayala. Il est conseiller en charge de l'administration au ministère provincial de l'Intérieur dans la province du Tanganyika. Lui, il a vécu la journée du 4 janvier 1959. Il était à l'époque à l'internat de Lubunda dans les territoires de Congolo. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. 63e anniversaire des martyrs de l'indépendance, c'est ce 4 janvier 2022. En effet, c'était le 4 janvier 1959, jour où des émeutes ont éclaté à Kinshasa, appelées à l'époque Léopoldville. En pleine colonisation belge, des émeutes dont le bilan parle de plusieurs dizaines de morts et de la casse à grande échelle, faisant ainsi de ce jour, selon de nombreux commentateurs, le jour qui a lancé la série de revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Rappel de cette date avec vous, Dona Madimba.
Selon l'histoire, le parti politique de Kasavubu, qui deviendra d'ailleurs président de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960, à Bako, prévoit ce jour-là un meeting sur la place Inka à Kinshasa. Objectif, ne pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba MNC, qui avait lui organisé un meeting très suivi une semaine avant. Le jour du meeting, Kasavubu et les siens décident alors de l'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble y avait, étant donné que les revendications d'émancipation était fréquente en cette période et que les colons belges administrateurs de la RDC en ce moment-là avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers déjà sur place, refuse toute annulation, commence à s'énerver, à casser et à s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans le même périmètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de football après un match. La confusion, la casse, la répression, les pressions vont s'aggraver, les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations parlent de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960.
Les pères de l'indépendance modèle pour la jeunesse congolaise, c'est sous ce thème central que IMK, Union chrétienne des jeunes gens, Union féminine, commémore la journée du 4 janvier 1959 à travers quelques activités dans les communes de Kalamu et de Kasavubu. Sur place, les gens arrivent, membres de la société civile, comme ceux de l'UDPS Né Congo, pour célébrer cette journée des martyrs de l'indépendance. On note aussi la présence de plusieurs membres IMK sous une pluie battante. Retrouvons sur place Jeff Ngoyi pour le reportage.
Oui, sur place à IMCA, le décor est déjà bien planté. Tout va commencer par une matinée d'échange de l'UDPS Né Congo, dont les membres se souviennent encore du discours historique de l'Abako prononcé à cet endroit même par le président Kasavubu, qui fut un des déclencheurs du processus ayant abouti à l'indépendance de la RDC. Outre le Né Congo, les responsables de IMCA organisent d'importantes activités allant des conférences, marches commémoratives qui va partir de IMCA à la commune de Kasavubu jusqu'à la résidence de l'ancien président dont la commune porte le nom, pourchité par son monument de Kimpwanza avec le dépôt d'une gerbe de fleurs. S'agissant du projet d'érection d'un monument commémoratif dans la cour de IMCA, le président de cette organisation parle des démarches en cours auprès de l'exécutif national pour la matérialisation du dit projet dont le budget, dit-il, est moins coûteux. Il exprime son optimisme quant à ce. Depuis IMCA, Jeff Ngoyi, Radio Okapi.
C'est au prix du sang que nous avons obtenu l'indépendance de la RDC. Voilà pourquoi il est inadmissible que les groupes armés actifs en Ituri continuent à faire couler le sang des Ituriens. C'est en ces termes que le G5, une structure qui regroupe les communautés qui se disent victimes des atrocités dans cette province, a commémoré ce mardi 4 janvier à Bunia la journée dédiée aux martyrs de la République. Les membres de cette organisation ont déposé des gerbes de fleurs aux différents sites où sont enterrés des martyrs au chef-lieu de la province. Témoin de l'événement, Marcel Kiza, Biamungu.
Cette journée a commencé par une messe dite à la cathédrale Notre-Dame de Grâce de Mudzi Maria à Muzipela, ayant pris part les différentes communautés de l'Ituri et membres du G5. L'officiant du jour, la bikiré de cette paroisse, a, dans son homélie, insisté sur l'amour du prochain, tout en rappelant que l'Ituri n'a pas besoin d'enregistrer d'autres martyrs, comme ceux qui avaient donné leur vie pour l'indépendance de la RDC. Après cette messe, la caravane des membres des différentes communautés, membres du G5, se sont dirigés tour à tour à l'ancien cimetière de la ville, au monument des martyrs situé au rond-point Sonance et enfin à face de l'église catholique de Nyakasanza, où ils ont déposé des gerbes de fleurs devant des fosses communes. Pourquoi ce geste? Christian Outeki, président du G5, explique.
Nous voudrions, au travers de ce geste, non seulement interpeller les autorités publiques pour qu'ils prennent conscience qu'il y a trop de morts en province de Ituri, mais aussi interpeller tous ces groupes armés, qu'ils abandonnent le chemin de la violence, parce que ceux-là qui sont tués sont leurs propres frères. Il faut que ce geste les interpelle afin qu'ils abandonnent le chemin de la violence.
Pour marquer cette journée, une autre messe d'action des grâces a été dite à la paroisse de Nyakasanza, à laquelle le gouverneur des provinces et d'autres membres du comité provincial de sécurité ont pris part. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Alors que l'héritage les Congolais gardent du sacrifice de ces martyrs du 4 janvier 1959 à Bandunduville, dans la province du Kwilu, les avis sont partagés. Suivez les propos de quelques habitants interrogés dans les rues du chef-lieu de la province par Irène Mbouma.
À date de 4 janvier, martyrs de l'indépendance, il y a eu beaucoup de sang, il y a eu des morts. Je me souviens de nos compatriotes.
C'est devenu des slogans, des répétitions qui ne représentent plus rien. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est moins par rapport à ce que nos parents ont vécu avant l'indépendance.
Pour moi, cette commémoration est très importante. C'est la date où les Congolais doivent se souvenir de ceux qui sont morts pour l'indépendance du Congo.
Mais quid de cette accession à l'indépendance? Mon père, à moi, a travaillé à l'époque coloniale. Les gens se suffisaient. Mais aujourd'hui, vous nous voyez là, avocats de profession en train de nous promener. À la recherche de quoi? Parce que la famille doit vivre. On n'a rien.
C'est une date à laquelle nous, les Congolais, nous célébrons pour se souvenir des Congolais qui ont pu verser leur sang.
Quoique c'était vraiment prématuré. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas bien préparés. Nos martyrs, là, doivent regretter d'avoir versé de leur sang pour ce pays, abandonnant ainsi leur projet. Qui souffre entre les mains de nous-mêmes qui croyons que, en prenant ce pays, nous allons les conduire à bon port. Parce que l'homme blanc, même s'il nous donnait la chicotte, il payait très bien nos parents et nos parents se retrouvaient. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nouer les deux bouts du mois.
Nous l'avons dit au sommaire, plus de 300 véhicules à destination de l'Ituri et la Tchopo sont bloqués à Oicha depuis 3 semaines maintenant en attente d'un convoi militaire pour être escorté. D'après Jackson Zibé, responsable d'une agence de voyage à Butembo qui rapporte l'information, 2 chauffeurs qui ont franchi la barrière lundi sans autorisation ont été arrêtés. Il appelle les autorités militaires du Nord Kivu à débloquer cette situation. Écoutez-le au micro de Sadiki Aboubakar.
Shida yenye tuko nayo iko ya magari ziko bloqué Wicha na Eringeti zimefaa 3 semaines ziko pale.
La difficulté que nous avons, c'est le blocage de nos véhicules au niveau de Oicha et Eringeti depuis 3 semaines. Certains chauffeurs qui ont dénoncé le fait ont été arrêtés. Nous ne comprenons donc pas pourquoi les véhicules sont bloqués longtemps à ce niveau. Le convoi vient régulièrement au départ de Komanda, mais arrivé à Luna, il n'y a aucun véhicule, tous sont bloqués très loin à Eringeti et Oicha. L'escorte militaire est donc obligée de retourner à Komanda seule, sans convoi de véhicules. Dans l'entretemps, nos chauffeurs, passagers et marchandises traînent et galèrent à Oicha. Quand on veut réclamer, ils nous mettent au cachot. Nous demandons donc aux autorités de nous aider à décompter cette situation. Nous avons à ce niveau 173 voitures et 127 camions.
Bon, magari zizi ko pale kuko 173 voiture kunakuwa na 127.
On revient ici à Kinshasa. 220 motards, appelés communément Wewa, regroupés au sein d'une association, font le trafic quotidien sur le trajet long de 9 km entre la station-service Plaza et le centre d'enfouissement de l'Union européenne dans la commune de la Célé. C'est à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa. Ce trafic est devenu une source de revenus sûrs, mieux un motif d'épanouissement personnel pour la majorité d'entre eux et également une opportunité pour les habitants du quartier Canada. Jean-Pierre Elali Coco s'est intéressé au travail de ces motards. Suivez son reportage.
Oui, merci, messieurs les journalistes. C'est toute ma première fois de voir un journaliste ici dans la station Place.
C'est le Conga Christophe, étudiant motard. Il est depuis une dizaine d'années témoin de la transformation de son quartier, le Canada, avec de nouvelles constructions, symboles du bien-être et de l'épanouissement personnel. Ces habitations sont l'œuvre, entre autres, des motards. Chaque matin, dès l'aube, des motocyclistes rivalisent d'ardeur et de klaxons sur la chaussée pour gagner de la clientèle.
Nous transportons deux personnes de la station Plaza jusqu'à la porte de l'Union européenne. Si vous travaillez convenablement, je peux avoir au-delà des 50 minutes. Ça m'aide à me satisfaire, compte tenu de mes syllabus, de faire nourrir ma famille. Je ne peux pas traîner comme ça.
Papi Zola est le secrétaire général de l'association des motocyclistes du Congo. Ça fait 10 ans qu'il exerce ce métier.
Moi, j'ai 3 enfants qui font l'université. Mais de toutes les façons, si vous y mettez un peu de sérieux, en tout cas, vous avez votre vie en main.
Malgré l'embellie du métier, Christophe évoque quelques difficultés, dont l'insécurité. Malgré tout, le métier de motard trouve ici toute sa signification et nourrit bien son homme. De la station Plaza dans la commune de Lancélé, Jean-Pierre Elali Coco, Radio Capi.
Dans la province du Maniema, après l'accident du train marchandise de la SNCC, survenu le week-end dernier à Lueki, à 57 km de Kindu, sur la route Kibombo, ayant causé plusieurs blessés, le ministre provincial de transport met en garde le responsable et travailleur de la SNCC qui autorise la population à embarquer dans ces trains marchandises. Assoumani Mankoukou est au micro de Florence Kizalunga.
La SNCC, jusqu'à présent, elle n'organise pas des trains passagers et dans les trains marchandises, il y a interdiction formelle d'y prendre des passagers. Parmi les mesures que nous avons eu à prendre, nous devons renforcer la sécurité dans ça. Nous savons tous que la SNCC a des commissaires civils qu'on appelle communément Corsi. Donc, dans les temps, il n'y avait que 3 Corsi qui conduisaient ces embarcations. Donc, le minimum des Corsi qui doivent conduire une embarcation, ils doivent être au moins à 10. Cela pourrait permettre de contenir ce genre de désordre qui s'orchestre le long de la voie ferrée. Et aussi, nous avons demandé au directeur provincial de la SNCC, présent ici à Kindu, chaque embarcation qui doit être faite, nous devons être informés du manifeste des gens qui ont embarqué ce train. Outre ça, des mesures très contraignantes et conséquentes seront prises à son endroit. Et à la population, nous les interpellons de ne pas embarquer dans les trains marchandises, parce que ce sont des wagons qui sont fermés et qu'il n'y a pas de lieux où peuvent être transportés les passagers.
Actualité internationale.
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi entame ce mardi une visite de 4 jours en Afrique, notamment en Érythrée, au Kenya et aux Comores. C'est la deuxième fois qu'il visite le continent en un peu plus d'un mois après le sommet sino-africain de Dakar. Une tournée où il sera question de coopération économique, de vaccins contre le Covid-19, mais aussi des questions de sécurité. Objectif pour Pékin, renforcer ses liens est-africains dans un contexte sécuritaire dégradé. Et puis en Irak, 2 drones piégés ont visé ce mardi matin une base militaire en Irak abritant des troupes de la coalition internationale anti-djihadiste emmenée par Washington, a indiqué à l'AFP un responsable de la coalition, précisant que les projectiles avaient été abattus sans faire des victimes. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins de 48 heures au lendemain du deuxième anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par un tir de drone des États-Unis en Irak en 2020.
L'invité.
La communauté congolaise célèbre ce 4 janvier 2022, la journée des martyrs de l'indépendance. À Kalemie, Kasongo Mulongoi Mayala, aujourd'hui conseiller en charge de l'administration au ministère provincial de l'Intérieur, a vécu cette journée à l'internat de Lubunda dans le territoire de Kongolo. Kasongo Mulongoi Mayala est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient ici avec François-Xavier Mibé. Suivez.
Monsieur Mulongoi Mayala Kasongo, bonjour.
Bonjour.
Le 4 janvier 1959, en ce moment-là, vous étiez où exactement?
Monsieur le journaliste, à cette date-là, moi je me trouvais encore à l'internat à Lubunda. J'étais à l'école normale à Lubunda en 6e préparatoire. L'école normale de Lubunda avait un programme tout à fait particulier par rapport à d'autres écoles. Presque tous les élèves qui finissaient l'école primaire, quand ils devaient être admis à l'école normale, ils devaient d'abord passer par la 6e préparatoire, de sorte qu'ils soient préparés pour embrasser le programme métropolitain que nous avions là-bas. Nous apprenions l'anglais, nous apprenions le flamand, en même temps que le français. Les prêtres avaient déjà compris que le pays va bientôt accéder à l'indépendance. Alors ils nous préparaient psychologiquement. C'est ainsi que presque chaque jour, juste après le repas, nous devions nous retrouver dans la salle des jeux. Là, les prêtres nous enseignaient, ils nous disaient, bientôt vous serez indépendants. Ce que vous devez retenir est que vous n'avez pas encore suffisamment de cadres formés. Vos leaders nous chassaient, entre autres le Patrice Emery Lumumba, et nous avions Kaunda, qui était de la place, qui appartenait au groupement Wangongwe, le village Kitumba. C'était un terrible type. Quand lui arrivait à l'internat, tous les prêtres tremblaient. Donc, le prêtre nous réunissait dans la salle des jeux. Et là, il avait la radio. Là, on entendait les déclarations des leaders congolais, entre autres Lumumba, Kasavubu, Kalonji et les autres. Et puis, il nous disait, bientôt, le pays va accéder à l'indépendance. Nous allons rentrer chez nous en Europe. Vous devez vous préparer en conséquence. Il insistait beaucoup sur la ponctualité. Un évolué, un homme instruit, qui passe par nos mains, nous les prêtres, doit comprendre que la ponctualité, c'est une très grande exigence. Vous devez normalement, quand vous aurez terminé vos études, avoir chacun une montre. Vous devez avoir le journal à côté pour suivre l'évolution du pays. Vous devez avoir la radio. Trois choses qui vous sont nécessaires. Mais il regrettait le fait que le Congo n'avait pas encore suffisamment de cadres préparés. Il y aura la haine qui va s'installer entre vous. Vous allez vous entretuer. Donc, cette tuerie entre tribus va continuer avec une ampleur terrible. Alors, ils insistaient sur ça. Vous n'allez jamais vous aimer. Donc, les ethnies, les tribus, entre vous, ça sera bizarre. Nous sommes en train de vous préparer pour être des enseignants, des instituteurs dans des écoles. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train de vous dire ici, que tant que vous n'avez pas cette conscience, ce pays ne marchera pas. Quand on vous demande de venir à 7h30, vous venez à 10h. Donc vous voyez le mal que vous avez. Pourtant, vous avez la montre bracelet. C'est dans le souci de vous dire que quand on dit 7h30, vous consultez votre montre, vous êtes à temps. Et c'est ça votre défaut. Un dirigeant qui ne respecte pas l'heure, alors ce n'est pas un dirigeant.
C'était quel type de communauté qui vous entourait en ce moment-là?
Il y avait une différence. Les uns disaient que les prêtres sont en train de traumatiser. Donc ils ne sont pas contents de l'indépendance. Et ils ne veulent pas rentrer chez eux. Tout ce qu'ils vous disent, c'est le mensonge. Ces gens, ils écoutaient les enseignements de leurs leaders, qui disaient toujours que la Belgique nous a malmenés. Nous étions des esclaves, nous n'avions pas la liberté. La population comprenait que l'indépendance, nous devrons acquérir tout. Sans rien faire, on devait avoir des voitures, des belles maisons, on aura à manger qui viendra du ciel. Donc le travail n'était pas une coutume pour les Congolais.
Comment est-ce que vous avez vécu cet événement de martyr de l'indépendance?
Ça nous a beaucoup attristés. Parce que nous trouvions nous à l'internat. Les prêtres nous disaient, voilà, les Congolais n'ont pas compris, les Congolais ont attaqué l'autorité belge, les Congolais ne voulaient plus que les Belges continuent à vivre chez eux. C'est ainsi qu'ils se sont révoltés. Et c'est ainsi que l'autorité coloniale ne pouvait pas tolérer de telles choses. Il a réagi, et en réagissant, vous voyez, des morts. Parce qu'on comprenait que l'indépendance va nous amener à vivre comme les Blancs, sans rien faire. Tout va nous revenir de droit. Mais les gens ont brûlé, ont incendié toutes ces voitures pour dire non, on va, ce sont des voitures des Belges. Il faut les Belges qu'ils partent, et avec leurs voitures, nous on aura d'autres. On n'avait même pas la notion du travail.
Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Il faut faire un effort pour que nous puissions rentrer aux anciennes habitudes.
Et ça, c'est à tous les niveaux?
Oui, à tous les niveaux. Même les fonctionnaires de l'État, même quand vous êtes dans les hôpitaux, tout est corrompu. Il n'y a rien de consistant. Nous sommes entre nous-mêmes. Nous devons nous dire cette vérité. L'indépendance vient avec le travail. L'indépendance vient avec une discipline, avec une très bonne culture.
Monsieur Mulongoi Kasongo, merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.